Vous écoutez
RMC.
Il est long, mais il est bon ce générique de Génération After spécial Drôle de Dame avec Fred Armel, Paulo Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet. 0-0, hein, si vous nous rejoignez entre Grenoble et Laval. 0-0 entre la Lazio et l'Udinese. On joue également l'Italie. C'est parti depuis deux minutes entre Chelsea et Newcastle. 0-0 entre ces deux équipes. On parle à Newcastle. Où en est le projet ambitieux de Newcastle. C'est ce club qui construisait pierre après pierre. Un projet ambitieux. Eh bien, 10e de Première Ligue, éliminé de compétition européenne. On en parle dans un instant avec Julien Laurence. Mais d'abord, on finit la page Ligue des Champions. La suite, c'est demain soir et mercredi soir. Et l'Inter qui va recevoir mercredi soir l'Atlético de Madrid. L'Inter qui est en patron du foot.
C'est l'Atlético
qui va à Madrid, exactement. Qui va au Civitas Metropolitano. L'Inter qui s'est imposé en patron du foot italien ce week-end, a ramené sur terre le Bologne de Thiago Motta, qui restait sur 6 victoires consécutives à Bologne. 1-0, propre, sec, clair.
Ouais, clair, pas hyper spectaculaire. Ah, il y a eu des matchs bien plus spectaculaires, mais match maîtrisé comme toujours avec l'Inter depuis pas mal de temps désormais. Première mi-temps où on les a vus au début du match aller les chercher très haut, les joueurs de Bologne, pour gêner leur sortie de balle, qui est une marque de fabrique évidemment de Thiago Motta. Et deuxième mi-temps, donc ils ont créé des occasions, ils ont ouvert le score, et puis en deuxième mi-temps, on gère. C'est l'équipe caméléon parfaite, capable de bien jouer, de presser haut, de récupérer des ballons, de se projeter, d'avoir des actions construites aussi beaucoup plus lentes et manœuvrées, entre guillemets, et capable aussi de défendre très très bas sans trop concéder, parce que Bologne a eu beaucoup le ballon, l'a beaucoup utilisé, l'a plutôt bien utilisé, mais ils se sont pas créés beaucoup d'occasions en fait, et Sommer a pas eu grand chose à faire non plus, donc c'est pour ça que c'est un match qui est maîtrisé, c'est pour ça que l'Inter est si fort, c'est que elle en est quasiment injouable en Serie A, on verra en Ligue des Champions contre l'Atlético, mais c'est que deux défaites cette saison pour l'Inter, une en championnat contre Sassuolo et une en Coupe d'Italie contre Bologne.
Ah, c'est 16 points d'avance, hein, je le précise.
Ouais.
Sur le deuxième,
24
sur le Milan.
28 clean sheet en 38 matchs joués.
13 buts
encaissés. 86 buts marqués en 38 matchs, toutes compétitions confondues. Donc c'est vraiment une équipe, une machine qui, d'une manière très générale, joue un très bon football, mais qui est capable aussi, comme on l'a vu en deuxième mi-temps contre Bologne, et d'autres matchs un peu plus difficiles, et sans renier aucun principe de jeu, d'attendre un peu plus bas et de faire valoir cette force collective. Et quand même, dans cette équipe, il y a la vision assez moderne des différents postes par Simone Inzaghi, puisque vous avez Di Marco qui joue piston gauche, parfois défenseur central, parfois milieu relayeur, parfois attaquant quand le ballon il est à l'opposé. Vous avez des défenseurs centraux qui participent au jeu, qui sont parfois des milieux relayeurs, parfois des ailiers de côté. Et puis là, sur le but, vous avez le défenseur central axe gauche, Bastoni, qui centre pour le but du défenseur central axe droit. Donc on n'est même pas de piston à piston, on est des deux défenseurs centraux qui centrent des deux côtés pour marquer ce but-là. Et l'artisan, évidemment, mon cher Nico.
Simone Inzaghi. Je voulais qu'on en parle, parce qu'on ne s'est pas vraiment arrêté sur son cas, sa personnalité également depuis le début de la saison. On rappelle qu'on parle d'un homme-là qui, il y a un an et demi, tu nous en parlais, était sur la sellette. Hein.
Qui était très critiqué.
Et on en parlait plus à ce moment-là qu'aujourd'hui, d'ailleurs.
Oui, qui était très critiqué, notamment par des anciens de anciens joueurs de l'Inter, l'ancienne clique de la Bobo Tivou, Adani, Vieri, Ventola, Cassano, etc., qui était assez critique parce que l'Inter était dans une période où il y avait pas mal de montagnes russes, des bons matchs, des moins bons. Je me souviens de matchs à Spezia qui étaient laborieux, match contre la Fiorentina où t'avais un Lukaku qui tirait à côté à 2 mètres du but. Enfin, il y avait pas mal de choses qui allaient pas dans le bon sens pour l'Inter et on disait d'Inzaghi, bah ouais, c'est bien, mais quand est-ce qu'il gagne? Voilà, c'est toujours un peu la remarque en Italie. Tu joues bien, tu proposes des choses, mais à un moment donné, il faut gagner aussi. C'est toujours le rapport au trophée en Italie. Et là, on a un Simone Inzaghi qui gère très bien son groupe, qui a d'excellentes relations avec ses joueurs. Vous prenez l'interview de Davide Fratesi il y a quelques semaines à la Gazzetta dello Sport, qui joue très peu alors que c'est un international italien, qu'il a besoin de jouer, qui vient d'arriver à l'Inter, où on peut se dire, ouais, et en plus il a le niveau pour jouer vraiment, mais sauf devant, t'as trois monstres, oui, Barella, Kitarian et Fratesi, Inzaghi, il concerne tout le monde, il parle à tout le monde, on n'a pas de mauvaise humeur parce qu'on joue pas, on se sent totalement impliqué dans ce qui se passe dans cette équipe de l'Inter.
C'est très fort. C'est un mec simple, tranquille, qu'on parle de Carlo Ancelotti aussi, tu vois, qui concerne tout son vestiaire.
Ouais, bien sûr.
Qui semble avoir des méthodes assez simples, finalement.
Qui est beaucoup plus énergique que Carlo sur le banc de touche. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui hurle. C'est très, très, n'exagérons pas, mais c'est régulier de l'avoir aphone à la fin du match. Ou parfois il envoie
des conférences de presse comme ça.
Non, en fait, il envoie son adjoint parce que tout simplement parce qu'il peut plus parler.
D'accord.
Parce que c'est quelqu'un qui hurle beaucoup, qui est très agité sur le banc de touche.
Et très italien aussi, hein, qui n'a jamais quitté son pays.
Oui.
En tant que joueur, en tant qu'entraîneur.
Exactement.
La question, c'est est-ce qu'un jour on lui voit un avenir ailleurs aussi?
Juste parce avant que... ça, quand même, rappeler quand même que il a entraîné donc l'Inter là actuellement, juste avant la Lazio, et que en 8 saisons. Il en est à 8 trophées déjà.
Ah ouais.
Alors c'est pas les gros trophées, mais c'est 5 coupes d'Italie.
Il gagne.
Et non, c'est 5 super coupes d'Italie et 3 coupes d'Italie. Entre parenthèses, avec la Lazio, il gagne 3 trophées. Il y a des clubs plus importants que la Lazio qui auraient été très contents de gagner ces 3 trophées. Là, il va y avoir le Scudetto, qui va être son premier très très grand trophée en tant qu'entraîneur. Il y a la finale de la Ligue des Champions l'année dernière, où sur le match contre City. Tu le perds ce match-là, mais on l'avait débriefé. Hein. Il y avait.
Bah, tu te fais pas démonter. Hein.
Non, exactement. Et puis un peu de maladresse devant le but où tu te dis si Lukaku contre pas le ballon de Di Marco, qu'est-ce qui peut se passer dans ce match-là. Et effectivement, il y a cette espèce de fait d'imaginer quelle pourrait être la suite pour Inzaghi.
Mais oui.
Parce qu'une fois que tu auras fait l'Inter, qui est l'équipe la plus forte du championnat, qui est l'équipe incontournable en ce moment de l'Italie. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans un autre club italien?
Mais...
Est-ce que tu le vois en Angleterre? Est-ce que tu le vois en Allemagne? Est-ce qu'il
parle
langue?
Il m'a l'air très, très italien aussi.
Voilà, il y a plusieurs éléments qu'on peut mettre. Il y a un, la langue, évidemment, très, très italien. Très, très italien dans la gestion des joueurs aussi. À voir comment on peut le faire. Et puis, quand vous êtes aussi précis dans la gestion des joueurs, dans les échanges que vous avez avec les joueurs, quand vous allez à l'étranger, que vous avez une nouvelle langue, vous pouvez pas être aussi précis.
Et avec un traducteur, c'est pas pareil.
Et avec un traducteur, c'est pas pareil. Donc c'est un petit peu difficile. Et puis il y a quand même une rigidité tactique. Alors pas sur l'interprétation des postes, mais sur le schéma. Il ne bougera pas de son 3-5-2. À la Lazio, à l'Inter, on a eu très très peu de variations. Ça doit se compter sur les doigts d'une main.
Mais il faut avoir les joueurs pour ça alors.
Il faut avoir les joueurs, mais quand tu es bon, que tu valorises les joueurs, bah on te les donne aussi les joueurs.
Tu as des joueurs,
on te donne les joueurs aussi.
Mais de toute façon, là, il n'a aucun intérêt à quitter l'Inter. Il peut répondre dans de nombreuses années.
Pas du tout, parce qu'en plus, l'Inter est dans une phase, on le disait il y a une semaine ou 15 jours, est-ce que l'Inter peut ouvrir une période de domination?
Ça, bah oui, tu dis ça aujourd'hui.
Bon, donc, une fois dit ça, Johan, on t'a écouté attentivement. On a du mal à voir comment les Colchoneros vont aller taper l'Inter et se qualifier.
En tout cas, Johan, hors micro, au maquillage, il n'était pas sûr pour l'Inter.
Passer au maquillage, ou alors c'est nouveau.
Non, mais c'est pas.
Passer au maquillage.
C'est pas.
Ouais,
c'est
d'accord.
C'est pas impossible.
Non, on vient pas de vacances.
Non, mais rien n'est impossible.
Mais non, mais je veux dire, c'est l'Atlético.
Et c'est qu'un but.
C'est un but d'avance.
Mais quel Atlético, celle qu'on a vue ce week-end?
Oh là là, mon Dieu.
Oui, mais ce sera pas celui-là.
Il faut le dire.
Non, mais franchement.
Qu'est-ce que t'en sais?
Quand je parlais tout à l'heure de la nostalgie face au Liverpool, au Liverpool City, moi j'ai vu Cadix. Cadix Atlético. Cadix n'avait pas gagné un match en championnat depuis le mois de septembre. Et ils mettent 2-0 à l'Atlético et il n'y a rien à redire. Vous allez me dire, ouais, mais Simeone, il avait mis l'équipe B. Il avait mis l'équipe B pour, en attendant le match de l'Inter. Bah non. Morata, Depay, Saúl, Coquet, De Paul, Lino, Hermoso, Paulista, Witsel, Marcos Llorente, Oblak. C'est quasiment l'équipe type. Donc, en fait, l'Atlético n'a plus cette sûreté défensive qui, elle pouvait être nulle dans le jeu, moche, etc. Mais il y avait cette sûreté défensive. Tu disais, l'Atlético, au moins, ils se prennent pas de but. Et puis après, sur un malentendu, ils arrivent à en marquer un petit exploit personnel, etc. Mais là, ils t'en prennent deux à Cadix qui a pas gagné le mois de septembre. C'est quand même un truc de dingue. Et puis, dans la créativité, c'est mou, quoi. Il y a pas, oui, Cathy me dit, Griezmann revient quand? Ben, il revient demain. Et heureusement.
Le chat. Ouais.
Et heureusement, parce que en espagnol, on dit « Sin Griezmann, no hay paraíso ». Sans Griezmann, c'est une référence à une série. Sans Griezmann, il n'y a pas de paradis. On traduirait en très bon anglais « No Griezmann, no party ». Bah ouais. Je vous rappelle que cet Atlético a fait match nul l'autre jour contre Almeria aussi. Enfin, non, mais c'est-à-dire qu'on est dans une équipe qui, aujourd'hui, on a l'impression que le message de Simeone ne passe plus. C'est-à-dire, si tu as pu la... Même, alors, tu parlais d'Inzaghi et de ses élucubrations sur le banc de touche, Simeone, c'est toujours le même. Sauf qu'on a l'impression que ça passe plus. Il n'arrive plus à motiver ses joueurs. on est vraiment au bout d'un cycle par moment. Mais il y a une question aussi, c'est que il y a tellement finalement de reconnaissance envers Simeone. On dit, ah ouais, mais Simeone, quand même, ah ouais, mais il a battu le Real.
La reconnaissance, elle est éternelle, en fait.
Ouais, mais tu sais ce qui s'est passé? Il a battu deux fois le Real. Il a battu le Real en coupe, il a battu le Real en championnat, puis il a fait match nul.
Il n'y a pas des voix un peu dissidentes parfois autour du club?
Ah, très rarement. Parce qu'en fait, il y a des voix dissidentes. Ah ouais, mais ils battent le Real, ils sont contents. Mais ça, c'est le réflexe de petits clubs. C'est
oui,
pas
on est Ligue des Champions tous les ans. Sauf que là,
alors voilà. Et alors, le problème, c'est que maintenant, t'as l'Athletic Club de Bilbao qui est juste derrière, là, à la cinquième place. Et qui fonctionne bien. Je crois qu'il y a 2 points, là. Ils sont à 2 points ou 3 points maximum. Donc, aujourd'hui, la quatrième place de l'Atlético, elle est menacée. Et c'est pas la même chose au niveau, et quand on sait les problèmes financiers qu'a l'Atlético, c'est pas la même chose d'aller en Europa League ou en Ligue des Champions, hein. Donc, je crains. Moi, toi, tu es derrière l'Inter et tu es prudent. Moi, je veux bien être derrière l'Atlético. Mais sans un super Griezmann. Pour marquer, pour créer en fait, pour être l'élément différentiel, pour être le métronome de cette équipe. Parce qu'on a l'impression que là, qu'il n'y a plus de patron dans cette équipe. Quand il n'y a pas Griezmann, il n'y a personne pour penser le jeu de l'Atlético. Heureusement, il revient.
Après 3 semaines d'absence quand même.
Voilà. Oui. Est-ce qu'il a 90 minutes dans les pieds? On n'est pas sûr. Et puis, c'est quand même bizarre qu'il n'ait pas joué quelques minutes alors qu'il s'est entraîné 2 jours avant le match à Cadix. C'est quand même bizarre qu'il ne soit pas allé au moins jouer quelques minutes à Cadix, quoi. Donc, on ne sait pas vraiment. Il y a une question de bluff aussi. Dans quel état est Griezmann après son entorse à la cheville? Donc, et 3 semaines d'arrêt, surtout à son âge? Ça se sent un peu plus quand même. Donc voilà, moi je suis très inquiet pour l'Atlético, mais je vais même vous dire une chose. Il vaudrait mieux pour l'Atlético de ne pas continuer en Ligue des Champions et d'être à fond sur la seule compétition, sur la Liga, parce que la quatrième place et donc l'Europe et donc l'argent sont en jeu. Voilà, allez, de toute façon si elle passe là, elle fera pas grand chose en quart. Donc voilà, très inquiet pour l'Atlético, mais un jour il va falloir qu'on pense réellement à se poser des questions sur l'avenir de Simeone qui est là depuis 12-13 ans. Est-ce qu'à un moment il n'y a pas besoin d'un nouveau souffle, voilà, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on se contente de peu du côté de l'Atlético, on se contente de victoires contre le Real. Sauf que ça, c'est un réflexe de petit club.
Et de place en Ligue des Champions.
C'est un réflexe de petit club.
Voilà. Attention, c'est fragile. Bilbao est à 2 points seulement de Bilbao.
Très vite. Non, mais ça me fait penser à des clubs italiens. Mais est-ce que c'est pas aussi leur place?
Ah non, bah non. C'est une équipe. Bah ouais, mais c'est une équipe qui fait 2 finales de Ligue avec cet entraîneur.
Oui, mais
avec
oui, mais
ses joueurs, fait 2 finales de Ligue des Champions.
Est-ce que ça, c'est la? Oui, mais Fred, est-ce que ça, c'est la normalité de l'Atlético depuis le début de son histoire?
Non, non, non. Oui, mais enfin, mais tu regardes le budget, c'est le 3e budget d'Espagne. Hein.
Donc
il doit être le 3e.
C'est le 3e budget. Oui, c'était 4e, c'était pas une super performance.
Non, non, mais c'était 5e,
en revanche, ouais. C'en est une. Bon, l'Atlético qui jouera le Barça également ce week-end. Hein,
ah bah oui, non, c'est pour ça, c'est...
Le foot, la Ligue 2, le direct, Grenoble-Laval, Edouard G.
Eh bien, tu viens au moment du but lavallois. J'ai l'impression que c'est Peter Ouané qui va marquer ce but sur un centre en retrait. En tout cas, les Lavallois, logiquement, à la 31e minute de jeu, ouvre le score car il n'y a qu'une équipe sur le terrain. C'est l'équipe donc de Laval qui avait déjà mis au supplice Brice Maubleu qui vraiment met sur le reculoir des Grenoblois qui ne se sortent pas, eux qui sont sur une série de 4 défaites consécutives. Et à l'instant donc ouverture du score à la 30e minute, fort logique pour Laval. 30 minutes, 31 même, tout augmente et c'est Laval qui ouvre le score 1-0 donc.
Grâce à Pagis, précision.
Pablo Pagis, exact.
1-0 donc pour Laval.